magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce magazine dont voici les grandes articulations. Plus de 16 millions d'enfants de 0 à 5 ans visés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite en RDC. C'est à Mbujimayi, au Kasaï-Oriental, qu'a été donné le coup d'envoi de la première phase de cette campagne, organisée avec le concours de l'OMS et de l'UNICEF. Les détails dans ce magazine. Les casques bleus prêts à défendre Goma. Propos du commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos Alberto dos Santos était mardi à Beni, au Nord Kivu. Il a annoncé le renforcement des patrouilles dans cette ville. Le mercredi 9 juillet dernier, la communauté internationale a célébré la journée internationale de destruction des armes légères. Le magazine des Nations Unies a approché Pascal Simon, chargé des programmes au Centre de coordination des Nations Unies de lutte anti-mines en RDC, pour décortiquer des concepts tels que armes légères, armes lourdes, armes anti-calibre, et aussi pour jeter un regard rétrospectif sur les activités menées par son organisation durant ces dernières années dans le pays. Ce sera notre décryptage de la semaine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Le ministère de la Santé publique a lancé le 11 juillet la première phase des journées nationales de vaccination contre la polio. C'était à Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, y sont impliqués. Honoré Missinga Kalala nous en dit plus dans ce reportage.
La campagne est allée du 11 au 13 juillet. Plus de 16 millions d'enfants de 0 à 5 ans étaient visés par ces journées nationales de vaccination intégrées à la supplémentation en vitamine A et au dépistage au mébendazole. Une particularité, pour la première fois, la campagne était également couplée avec l'enregistrement des enfants à l'état civil dans 117 zones de santé. Selon l'UNICEF, près de 169 000 personnes ont été mobilisées dans cette campagne, 19 000 mobilisateurs sociaux, 90 000 vaccinateurs, 3 500 superviseurs, 50 614 supplémentateurs en vitamine A et mébendazole, 434 moniteurs indépendants et 5 838 enregistreurs de naissance. Il faut noter que depuis le 20 décembre 2011, la RDC n'a plus enregistré de nouveaux cas de polio, au point que le 18 mars de l'année en cours, l'OMS l'a retiré sur la liste des pays où circule le poliovirus sauvage. Cependant, une semaine avant le lancement de ces journées nationales de vaccination, le représentant de l'OMS en RDC a appelé la population congolaise à la vigilance et à la mobilisation pour amplifier, dit-il, les bons résultats dans la lutte contre le poliovirus sauvage dans le pays. Avec cette campagne, dont la deuxième phase aura lieu en août prochain, la RDC a amorcé la dernière ligne droite pour consolider l'interruption du poliovirus sauvage.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Armes légères ou à petit calibre, armes lourdes, autant de concepts évoqués dans le cadre de la Journée internationale de destruction d'armes légères, journée célébrée le 9 juillet dernier à travers le monde. Pascal Simon, chargé de programme à l'UNMAC, le Centre de coordination de lutte anti-mine des Nations Unies en RDC, décortique ces concepts. Il trace aussi le bilan d'action de son organisation durant ces deux dernières années dans le cadre de la lutte anti-mine et des pollutions d'armes. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Pascal Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Le 9 juillet dernier, c'était la journée internationale de destruction des armes légères. D'abord, qu'est-ce qu'on attend par des armes légères, monsieur Pascal?
Eh bien, il s'agit en fait de toute arme qui peut être transportée et utilisée par un seul individu ou à la limite par un petit groupe de personnes, ainsi d'ailleurs que toutes les munitions qui leur sont associées. Il faut savoir qu'on en produit 7 à 8 millions par an dans le monde, ainsi d'ailleurs que 12 milliards de munitions de petit calibre.
Donc c'est énorme.
Oui, les conséquences du commerce illicite de ces armes légères sont très négatives et sont très importantes, et notamment pour les populations civiles.
On parle également des armes à petit calibre. C'est la même chose que les armes légères?
Tout à fait, c'est la même chose. Donc dans les deux cas, on dit armes légères, petit calibre, c'est la même chose.
On suppose qu'il y a des armes à grand calibre?
Oui, tout à fait. Alors il y a les armes lourdes, ce qu'on appelle généralement les armes lourdes pour les différencier.
Madame Barbara Tonti, directrice de l'Oxfam, elle disait ceci: pour chaque arme détruite dans le monde, 10 sont produites. Cela démontre que la destruction des armes, y compris les armes légères, demeure un problème majeur dans le monde. Alors, Pascal, quelles sont les pistes préconisées au niveau mondial pour lutter contre la prolifération de ces armes ou même des mines antipersonnelles?
Alors, il y a en fait un foisonnement d'initiatives officielles pour réduire la circulation de ces armes légères. Les Nations Unies ont notamment adopté un protocole sur les armes à feu et ont également adopté un programme d'action sur les armes légères. On connaît également la Convention sur les armes classiques de 1980, dont le protocole 2 adresse la question des armes laser et le protocole 5 adresse la question des mines et des pièges. Vous avez parlé des mines, alors on connaît bien sûr la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles de 1997.
Oui.
Et puis le secrétaire général des Nations Unies fait aussi rapport au Conseil de sécurité et attire souvent l'attention du Conseil sur les questions du commerce des armes, mais aussi du marquage et du traçage qui sont très très importantes, ainsi que le stockage, la sécurité.
Il y a les États-Unis et la Russie qui sont les premiers producteurs d'armes. Qu'est fait alors l'ONU pour dissuader ces pays dans la production et le commerce de ces armes légères, par exemple?
Bien, les Nations Unies encouragent tous les États membres à ratifier le récent traité sur le commerce des armes qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies au mois d'avril, qui concerne toutes les armes légères et armes lourdes d'ailleurs. Et ce traité vise à stopper le flux d'armes vers des régions qui sont instables ou en conflit et vise à empêcher la fourniture aussi des armes à des régimes tels que des régimes dictatoriaux ou à des régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Donc les Nations Unies ont pris quand même de nombreuses initiatives parce qu'elles visent à évidemment protéger la paix, à promouvoir le développement. Il va de soi que la prolifération des armes légères, des armes en général, constitue un obstacle à tous ces objectifs des Nations Unies.
Donc ce sont des résolutions, des conventions, mais sur le terrain, les choses ne vont pas comme on l'entend.
Non, bien sûr. Alors ça met toujours un certain temps pour que ça soit traduit dans les actes, mais regardez par exemple en RDC, vous savez que la section démobilisation de la MONUSCO a quand même collecté plusieurs milliers d'armes, mais a détruit aussi 100 000 munitions. Nous, UNMAC, nous soutenons les efforts de cette section. Nous avons organisé récemment des cérémonies de destruction d'armes à Goma et à Bukavu. Il y a aussi les efforts de notre partenaire MAG qui a aussi détruit plus de 100 000 armes ces dernières années. Et donc, on ne peut pas dire effectivement que la prolifération de petites armes a baissé en RDC. Ou dans l'est du pays? On pense que non, mais en tout cas, les efforts pour empêcher cette prolifération sont nombreux. Et je rappelle aussi qu'il y a la Convention de Kinshasa qui, elle aussi, a pour objectif de réguler le commerce des petites armes dans la région d'Afrique centrale.
Alors, vous venez de parler de cet effort qui est fait, mais la sécurité dans l'est du pays est menacée par des conflits entre belligérants qui utilisent des armes légères, mais aussi des mines antipersonnelles, comme vous le savez, et même autres engins explosifs. Et quel en est l'impact sur la vie socio-économique des populations?
Eh bien, bon, la prolifération de ces armes et des armes légères en particulier provoque l'insécurité dans les populations civiles. Elles aggravent la violence criminelle, elles aggravent évidemment les violations des droits de l'homme. Elles facilitent aussi les violences sexuelles et elles contribuent au recrutement des enfants soldats. Donc l'impact général est très très négatif sur les populations civiles, sur la sécurité alimentaire, sur la pauvreté. Ces armes constituent un obstacle aux OMD, aux objectifs du millénaire pour le développement.
Et quelle est l'action du UNMAC dans ces opérations de déminage dans cette partie du pays?
UNMAC, ces dernières années, a déminé un total de 9 millions de mètres carrés, a détruit 230 000 restes explosifs.
Ça, c'est précisément où? Précisément où?
C'est sur tout le territoire. Quand je donne ces statistiques, il s'agit de tout le territoire.
National. Oui.
De la RDC. Mais c'est vrai que nous travaillons surtout dans la partie est, dans la province orientale, le Katanga. Donc, c'est surtout dans ces zones-là que nous avons le plus travaillé. Il faut savoir aussi qu'on a vérifié 30 000 kilomètres de route. On a déminé 3 500 mines. Et donc, nous pensons que nous avons un impact très, très positif sur la situation de la RDC pour permettre aux populations de retrouver l'accès à leurs ressources, à l'eau ou à des terres agricoles.
Et ce travail, vous le faites en collaboration avec quel autre partenaire? Vous le faites seul?
Non, nous travaillons avec un réseau d'organisations nationales et internationales comme Handicap International, Norwegian People's Aid, Dan Church Aid ou MAG, ainsi que de nombreuses organisations congolaises nationales.
Il n'y a pas que l'Est du pays. Au nord de l'Équateur, donc au nord Ubangi, des conflits à répétition ont poussé des milliers de personnes à se réfugier en République du Congo d'en face. Récemment, MAG a initié une enquête pour déceler des endroits minés d'explosifs. Quelle est l'implication de l'UNMAC dans cette enquête?
En fait, UNMAC est le maître d'œuvre de l'enquête nationale sur la contamination par mine. Il s'agit donc d'un projet sur toute l'étendue du territoire national qui vise à mieux connaître la localisation et l'impact de la contamination par mine afin de permettre à la DRC de respecter l'article 5 de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Il s'agit d'un projet qui est financé essentiellement par le Japon.
Ces deux dernières années, on peut dire que la prolifération des armes légères et même l'existence des explosifs et aussi de mines antipersonnelles, est-ce qu'on peut dire que ça a diminué ou bien ça a augmenté en République démocratique du Congo?
La contamination par mine a certainement diminué grâce aux efforts de déminage que nous avons menés avec nos partenaires. Par contre, on ne peut pas dire que la prolifération par armes légères ou la contamination par munitions non explosées a diminué. C'est très difficile de le dire et je ne pourrais pas le faire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est donner la capacité au pays de pouvoir faire face à cette menace et de pouvoir détruire évidemment les engins non explosés.
Vous avez parlé du don financier du gouvernement japonais. Mmh. C'est exactement 3,6 millions de dollars américains. Est-ce que vous croyez qu'enquêter sur l'existence des mines antipersonnelles ou d'autres engins explosifs en République démocratique du Congo dans 10 provinces, c'est une tâche quand même difficile? Et comment vous allez vous y prendre?
Voilà, alors effectivement, c'est un challenge très très important, vous imaginez bien, vu la taille du pays. Mais nous avons adopté une méthodologie que nous pensons être appropriée pour cet objectif. Elle est basée sur la collecte d'opinions, de personnes bien informées. Nous faisons également des enquêtes non techniques sur le terrain. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous aurons une idée assez claire de la localisation et de l'ampleur de cette contamination. Et tout cela nous permettra de documenter la demande d'extension dans le domaine de l'article 5 de la Convention d'Ottawa que la RDC devra introduire d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine.
Après l'enquête, après la documentation, et la prochaine étape, c'est laquelle ?
Il s'agira bien sûr de finaliser les opérations de déminage des zones contaminées par mine. Pensons de nouveau que ceci pourrait se faire dans les prochaines années, mais évidemment, il faudra aussi mettre en place les structures nécessaires pour faire face à la pollution par engins non explosés. Enfin, il faut rappeler quand même que dans le financement japonais, nous menons également des activités d'éducation au risque et des activités d'assistance aux victimes.
Est-ce que vous croyez que ces financements sont suffisants pour le travail que vous allez mener sur le terrain?
Mais nous pensons qu'il est en tout cas suffisant pour mener ces activités d'ici la fin de l'année. Nous espérons bien entendu que les partenaires au développement et les bailleurs continueront de soutenir nos activités dans les prochaines années pour pouvoir atteindre cet objectif d'élimination totale de la contamination par mine.
Et Monsieur Pascal, je vous remercie.
Merci à vous.
Ces 105 officiers de la police nationale congolaise ont pris part du 9 au 10 juillet 2013 à un atelier de sensibilisation sur le genre et la protection des femmes et des filles. L'atelier a été organisé à Kinshasa par le bureau genre de la MONUSCO en partenariat avec le commissariat général de la police nationale congolaise. Un des objectifs de cette formation est d'identifier des comportements portant atteinte au respect de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes de la PNC. Volet développement, le PNUD accompagnera la province orientale dans l'organisation de la table ronde économique de cette province prévue en novembre prochain. Le directeur pays de cette agence onusienne en RDC, Adama Koulibaly, l'a affirmé lundi dernier au cours d'une matinée d'échanges entre partenaires au développement et opérateurs économiques de la province. Les thèmes de ces échanges étaient bâtir un partenariat dynamique pour le développement durable en province orientale et rôle du secteur privé dans le développement de la province orientale. Toujours avec la même agence, signalons l'organisation ce week-end du 12 au 13 juillet à Kinshasa de la revue annuelle du document de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté en RDC, DCRP2 en sigle. Une réunion organisée par le ministère du Plan avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Cette revue annuelle vise à organiser un cadre permanent de concertation entre les acteurs centraux, provinciaux et sectoriels dans la mise en œuvre du DCRP2. Enfin, côté humanitaire, OCHA a annoncé mercredi dernier l'arrivée à Aru en Ituri au cours des deux dernières semaines de plus de 2500 sont réfugiés ougandais. Ces personnes auraient fui les affrontements intercommunautaires dans le district d'Arua, en Ouganda. Elles ont besoin d'une assistance en abri, en eau et en vivres notamment. Le HCR, en concertation avec le PAM, planifiait, selon la même source, une assistance en articles ménagers essentiels et en vivres.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a effectué samedi dernier une mission d'évaluation des activités de son agence dans la province de l'Équateur. Stefano Sévère s'est rendu d'abord au site de transit de Bouburu avant de rencontrer à Mbandaka le gouverneur de province intérimaire, la MONUSCO, les agenceurs du système des Nations Unies et les partenaires opérationnels du HCR. Quel est le but de la mission du représentant régional du HCR en Équateur? Quelle évaluation faire de l'opération de rapatriement des réfugiés congolais en provenance de Congo-Brazzaville? Les réponses à toutes ces questions dans cet entretien entre Henri Lobondo-Bokelou et le représentant régional du HCR. Suivez.
Monsieur le représentant régional du HCR, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie votre présence au chef-lieu de l'Équateur?
Tout d'abord, j'avais effectué une visite sur terrain. J'étais à Bouburu pour visiter nos opérations. Ça fait partie d'une visite de routine, mais aussi parce que vous savez qu'on s'était fixé comme objectif de rapatrier 81 000 réfugiés entre le mois de mai 2012 et le 30 juin 2013. Et j'ai constaté que nous avons pas seulement atteint cet objectif, mais largement dépassé avec 87 500. Donc il fallait aussi que je vienne féliciter nos équipes, qu'elles se soient celles en RDC, pour le travail excellent qu'ils ont fait pour accueillir tout ce monde dans les différentes localités, et aussi de me rendre en République du Congo pour féliciter mon équipe qui est sur place là-bas. L'autre objet, naturellement, vous savez que dernièrement, la province a accueilli plus de 40 000 réfugiés centrafricains, et nous sommes en train d'établir dans la province de l'Équateur trois camps de réfugiés, un près de Badolité, le camp de Inke. Nous avons le camp de Molé près de Zongo et le camp de Bouyabo près de Libengue. Donc c'était aussi encore une fois pour remercier les autorités sur place et par eux remercier la population de l'Équateur pour avoir accueilli tout ce monde.
Et quel est l'état de lieu de la situation des réfugiés centrafricains en terre congolaise?
Dans un premier temps, la communauté internationale, avec l'appui des agenceurs, a pu assister les réfugiés dans les familles d'accueil. Et aujourd'hui, nous sommes justement en train de les regrouper sur des sites où nous pouvons leur donner une assistance plus conséquente et aussi naturellement assurer qu'ils soient protégés, mais aussi pour qu'il y ait un peu de l'ordre dans le contexte de la gestion des réfugiés, qu'ils ne soient pas éparpillés sur 600 km de frontière. L'opération du rapatriement des réfugiés, comme j'ai dit, nous avons atteint l'objectif, mais il n'est pas fini. Donc nous sommes en train de mobiliser des nouvelles ressources pour continuer le rapatriement. L'objectif, c'est de faire entrer tous les Congolais qui sont encore en exil en République du Congo. Donc l'objectif pour l'année 2014, nous essayons de l'avancer à 2013. Donc nous avons planifié au moins de rapatrier encore 25 000 cette année, si pas plus. Et pourquoi pas carrément fermer les camps de réfugiés en République du Congo. Par la suite, il faudra naturellement continuer les opérations que nous menons ici d'appui à l'intégration de ces rapatriés. Et ça, on ne le fait pas seul. Nous sommes plutôt un agent catalytique pour mobiliser d'autres acteurs de développement. Notamment, nous réjouissons que le PNUD ait réouvert ses portes ici en Équateur. Et nous allons travailler très étroitement avec eux pour assurer l'intégration des réfugiés.
Maintenant que le HCR a délocalisé le site d'hébergement des réfugiés centrafricains de Worobe à Molé, si je ne me trompe, et de ceux de Badolité à Mobayimbongo à Inke, cela voudrait dire que ces réfugiés vont rester longtemps en République démocratique du Congo. Et si tel est le cas, quelles sont les dispositions que vous avez prises avec les autorités congolaises pour des activités de survie de ces personnes en détresse?
Tout d'abord, Orobé, je peux confirmer, est complètement fermé. C'est vrai qu'entre temps, quand nous avons commencé à faire la relocalisation des camps, on ne trouve pas autant de réfugiés centrafricains qu'on avait initialement enregistrés lors de l'afflux. Ça veut dire que probablement certains sont rentrés spontanément chez eux. Mais vous savez très bien que la situation, malheureusement, en Centrafrique est encore très perturbée, et nous avons même eu encore quelques nouveaux arrivés ces derniers temps. Donc les sites vont être aménagés de sorte qu'ils peuvent aussi servir comme sites de contingence pour accueillir de nouveaux réfugiés. Naturellement, on essaye toujours d'espérer que la question de refuge est temporaire. Néanmoins, pendant la période qu'ils sont sur le sol de la République démocratique du Congo, il faut qu'on leur assure un service minimal dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de santé. Et là, on essaye, dans la mesure du possible, de jumeler les structures avec des structures qui sont dans les communautés hôtes, puissent aussi bénéficier de ces services, et qu'au départ des réfugiés, ces services soient toujours utiles à la population locale. Donc, par exemple, même à Orobé, que nous avons quitté, nous avons construit une clinique, et on a achevé la construction de l'école primaire, qui était initiée, même si elle ne sera pas utilisée pour les réfugiés, mais elle servira au moins pour la population qui les avait accueillis dans un premier temps.
Le général brésilien Carlos Alberto dos Santos, commandant de la force de la MONUSCO, s'est rendu à Beni mardi dernier, où il a dévoilé les intentions des casques bleus face aux menaces sécuritaires de cette ville et de celle de Goma, dans le Nord Kivu. Martial Papi Mukeba y était. Il nous en parle dans ce reportage. C'est notre nouvelle en province.
La visite à Beni du commandant de la force de la MONUSCO intervient dans un climat d'insécurité généralisée, avec la recrudescence des enlèvements des civils et des attaques des positions des FRDC par les rebelles ougandais ADF Nalu ou les Maïmaï. Le général Carlos Alberto dos Santos annonce les renforcements à Beni et ses environs des patrouilles des casques bleus.
Beaucoup de groupes se disent groupes armés, mais ce sont des groupes de criminels qui font de mauvaises choses, beaucoup de crimes contre la population. Et nous sommes ici exactement pour faire une nouvelle évaluation afin de prendre n'importe quelle action nécessaire pour la protection de la population.
Le commandant de la force de la MONUSCO est également revenu sur les menaces du M23 d'attaquer la ville de Goma. Le général Carlos dos Santos est ferme. Les casques bleus de la MONUSCO sont prêts à défendre la ville de Goma.
Now we are going to defend Goma. Maintenant, nous allons défendre Goma. Nous avons la logistique, nous avons les forces, nous avons tous les outils et nous allons utiliser tous les moyens qu'il faut.
Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'Isis.
Je m'appelle Claude Kalinga Ebal. Je suis marié, père de 5 enfants, dont une fille adoptive. Je suis détenteur d'un diplôme en pédagogie appliquée, option anglais, mais cette formation a été ponctuée de bien d'autres formations dont je détiens plusieurs diplômes et plusieurs certificats, notamment dans le droit de l'enfant et dans la communication. Et je suis actuellement chargé de communication au sein du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM. Et je suis dans cette agence depuis juin 2008. Donc je viens d'accomplir jour pour jour 5 ans de service au sein de cette agence. Mes tâches quotidiennes consistent à appuyer le représentant et toutes les autres unités du Programme alimentaire mondial dans la collecte, le traitement de toutes les informations en rapport avec nos opérations et nos activités sur le terrain. Avant d'arriver au PAM, j'ai une longue expérience professionnelle. Après mon diplôme, j'ai eu à donner cours à l'Institut supérieur pédagogique de Kangou dans le Bas-Congo. J'ai été préfet des études pendant plusieurs années, directeur des études, conseiller pédagogique dans bien des écoles à Kinshasa. Et de là, je suis parti comme assistant consulaire à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. J'ai fait là quelques années. De là, je suis allé à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge à Kinshasa, où j'ai commencé mes fonctions en qualité de chargé des communications et de reporting. De la Croix-Rouge, je suis allé au bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad, où j'ai assumé également les fonctions de chargé des communications. Et de là, je partirai pour l'OPAM. En dehors de mes heures de service, j'aime bien prier, j'aime bien lire la Bible, j'aime bien écrire parce que j'ai le projet de pouvoir publier quelques livres sur mon parcours personnel privé, sur la vie, sur la parole de Dieu et sur les différentes formations que j'ai eues à suivre. Et j'aime bien également la marche, j'aime la nature, j'aime l'agriculture, et donc j'aime la promenade dans des endroits reculés de la ville pour être en contact avec la nature. En ce qui concerne mes hobbies, mes préférences, j'aime bien la musique chrétienne, en tout cas le sport, j'aime bien le foot, mon équipe favorite c'est le Barça. Et en ce qui concerne la bouffe, j'aime bien le foufou, j'aime bien les makemba, et j'aime bien du poisson grillé, j'aime bien également de la viande, évidemment le fombois, le pondou, c'est vraiment mon légume préféré. Pour l'avenir, eh bien, j'ai le projet de continuer mes études. Je suis déjà en contact avec mon institution, l'Université Pédagogique Nationale, où je compte pouvoir continuer avec mes études doctorales pour parfaire ma formation. Merci.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Olivier Godoma, gestionnaire financier de formation et observateur économique. J'ai appris que le PNUD a mis en place des centres communautaires polyvalents, CCP en sigle. Qu'est-ce que signifie un CCP et quelle est leur importance dans un environnement marqué par des conflits et de nombreux déplacés?
Nous avons contacté pour vous à partir de Goma Anne-Marie Nabintou, experte en genre du programme de lutte contre la pauvreté du PNUD. Anne-Marie, bonjour. Que répondez-vous à Olivier Godoma?
Merci, monsieur Olivier Godoma, pour votre question. Le centre communautaire polyvalent, c'est un centre d'autopromotion communautaire dont la gestion est prise en charge par la communauté elle-même. Ce centre a juste trois missions, améliorer les conditions économiques des femmes y inclut les victimes de violences sexuelles sans les stigmatiser. En deuxième lieu, le centre favorise la promotion de la prise de décisions de femmes et leur intégration dans les communautés de leur choix. Promouvoir les changements de comportement par rapport à l'égalité du genre. L'importance de CCP se traduit par la réponse qu'il apporte aux divers problèmes de violence basés sur le genre dans un environnement post-conflit. Il favorise la vulgarisation de mutuelles de solidarité, non seulement pour promouvoir la cohésion sociale, mais aussi pour permettre à ces femmes vulnérables, dont les victimes de violences sexuelles, d'accéder au microcrédit et à l'épargne. Les centres communautaires polyvalents donnent aux membres de la communauté, et particulièrement aux femmes, l'occasion d'apprendre un métier et lui donnent la possibilité aussi d'effectuer une activité génératrice de revenus pour subvenir aux besoins de survie. Pour leur intégration dans la communauté, les centres offrent des activités de formation et d'information sur le droit de la femme, sur les violences basées sur les genres, sur le leadership féminin et sur les VIH/SIDA. Ces activités se véhiculent aussi par l'alphabétisation fonctionnelle et conscientisante qui sont offertes au niveau des centres communautaires polyvalents. Pour le moment, il y a 12 centres communautaires polyvalents dans les deux Kivu, 6 au sud Kivu et 6 au nord Kivu. Il y a 2 centres qui sont en train d'être mis en place dans la province de Maniema.
Merci Anne-Marie pour tous ces éclaircissements sur CCP et j'espère qu'Olivier Godoma ainsi que tous nos auditeurs sont satisfaits de votre réponse.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Dans l'agenda de la semaine qui commence, notez que du 17 au 19 juillet prochain, la RDC accueillera la directrice exécutive du PAM, Herta Rincouzin. Elle sera en mission de travail ici dans le pays. Après ses contacts à Kinshasa, cette dernière se rendra aussi à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimwini et je l'ai présenté avec l'assistance technique de Dieudonné Nyangassa du côté de la régie. Nicole Ngaka en a assuré la supervision. Jean-Pierre Elali Coco la coordination et Honoré Missenga a été au reportage. Une émission à écouter à tout moment sur notre site www.radiocapi.net. Vous avez une préoccupation par rapport à cette émission? Contactez-nous au 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse email maguen@radiocapi.net ou tout simplement laisser votre question sous forme de commentaire sur notre site en dessous de l'émission. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. À la semaine prochaine.